À présent, je donne la parole à Son Excellence Aurelia Frick, ministre des Affaires étrangères, de l'Éducation, des Affaires culturelles du Liechtenstein.
Mr. President,
Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année a été extrêmement difficile pour les Nations Unies. Comme le secrétaire général l'a dit, nous vivons dans une ère de crise sans précédent et je me fais l'écho de son appel afin que les dirigeants s'unissent. Alors que le monde paraît s'effondrer, eh bien, il serait bon pour nous de nous souvenir de ce qui nous unit. Et nous n'avons qu'à regarder la Charte des Nations Unies. Son préambule apporte la vision qui nous paraît si difficile à mettre en œuvre. Nous sommes déterminés à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Cette organisation a été créée afin de prévenir la guerre plus que toute autre chose. Et en effet, elle propose un système de sécurité collective qui est bien plus efficace que quoi que ce soit qui ait existé avant. Et pourtant, les événements de l'année écoulée ont ébranlé ces bases mêmes. Parfois, il semble que nous sommes renvoyés aux habitudes des siècles passés. Nous sommes très troublés par les actes d'agression perpétrés contre l'Ukraine et par l'annexion illégale de partie de son territoire. Il s'agit de violations massives des principes sur lesquels cette organisation a été bâtie. Il s'agit d'un revers essentiel pour la sécurité collective. En tant que petit pays situé au cœur de l'Europe et en tant que membre de l'OSCE, nous espérons que nous pourrons rapidement rétablir un consensus sur les questions de sécurité en Europe. Les événements en Ukraine souligne également le besoin qu'il y a à garantir l'application du droit international et, si nécessaire, devant une cour de justice. Nous avons maintenant la possibilité historique de pénaliser les formes les plus graves d'utilisation illégale de la force devant un tribunal international depuis la première fois depuis les procès de Nuremberg. La juridiction pour le crime d'agression devant la Cour pénale internationale, cela sera possible dès 2017. Le processus de ratification des amendements de Kampala est en bonne voie. Je salue la ratification par la Lettonie, la Pologne et l'Espagne il y a quelques jours. Nous espérons réaliser cet objectif avec le nombre le plus important possible de partenaires. Pour une action véritablement collective qui permette de préserver la paix et la sécurité, nous avons besoin d'un sens collectif de nos objectifs. Cela est difficile de concilier avec la notion selon laquelle un seul membre du Conseil de sécurité pourrait bloquer des mesures qui permettraient à l'ONU de remplir ses objectifs et de respecter ses principes, sans aucune question posée, et quelle que soit l'importance de la majorité en faveur d'une telle mesure. Bien sûr, nous acceptons le fait que le veto soit une réalité dans la charte, comme nous l'avons fait lorsque nous avons rejoint cette organisation. Mais nous n'acceptons pas que le veto soit utilisé de manière à contredire les objectifs mêmes des Nations Unies. Nous avons vu trop de ce genre de cas récemment. Il faut des changements de manière urgente. Nous demandons aux États membres du Conseil de ne pas voter contre des mesures nécessaires pour prévenir ou mettre un terme à des crimes, des atrocités. Et en particulier, nous espérons que les membres permanents prendront un engagement clair à cette fin. Nous sommes déterminés à réaffirmer notre foi dans les droits humains fondamentaux, la dignité et la valeur de la personne humaine. Les Nations Unies ont été créés comme une famille de nations. et les droits et la dignité des individus sont au centre de leurs efforts. Il s'agit d'une organisation sur les droits de l'homme et l'Assemblée générale que nous avons confiée à votre présidence lors de cette session, Monsieur le Président, est également un organe des droits de l'homme. Le monde change de façon toujours plus rapide. Pour cela, il faut que nous continuions à nous engager en faveur des droits de l'homme. Le droit à la vie privée, par exemple, risque d'être sapé. L'ère numérique fait que la collecte de données à grande échelle est facile à mettre en œuvre et difficile à détecter. Les discriminations sur la base du sexe, de l'orientation sexuelle, de la nationalité, du groupe ethnique, de la religion, du handicap ou d'autres statuts continuent à exister dans de nombreuses parties du monde. L'émergence de l'intolérance religieuse qui se renforce est particulièrement alarmante. Des conflits dans le monde entier sont caractérisés par la persécution de minorités religieuses, qu'il s'agisse de chiites, de yazidis, de chrétiens ou d'autres. Et nous voyons une augmentation extrêmement préoccupante de l'antisémitisme. Cette assemblée devrait répondre en s'unissant en faveur d'un appel contre la persécution de toute minorité religieuse perpétrée où que ce soit dans le monde. Je suis également particulièrement préoccupé par les violences croissantes contre les défenseurs des droits de l'homme, tels que le meurtre récent de Samira Saleh Al-Noami, une militante irakienne, mère de 3 enfants. Il n'y a rien d'islamique concernant cet acte barbare commis par le IIL. En temps de conflit, le droit humanitaire international représente notre espoir pour au moins le minimum vital de dignité humaine. Les conventions de Genève ne font pas seulement partie des réalisations les plus importantes dans l'histoire du droit international, elles font également partie des traités les plus réussis qui aient accepté de façon quasi universelle. Quoi qu'il en soit, leurs principes fondamentaux, la proportionnalité de l'utilisation de la force et la distinction entre civils et combattants, ces principes sont violés quotidiennement. Le récent conflit à Gaza a été mené aux dépens des civils par les deux belligérants. La population civile de la Syrie connaît d'immenses souffrances maintenant depuis plus de 3 ans. Des atrocités ont été commises contre des hommes, des femmes, des enfants par le régime et de plus en plus par d'autres acteurs. L'accès humanitaire a été bloqué de façon systématique en tant que méthode de guerre. Et les civils, aussi bien en Syrie qu'en Irak, restent à la merci de la brutalité repoussante de l'EIL. Il y a eu peu de moments où les civils risquaient davantage d'être victimes de crimes d'atrocité. Nous ne sommes pas à la hauteur de nos promesses que nous avons faites il y a 10 ans, c'est-à-dire garantir de manière collective la protection contre ces crimes. Nous sommes déterminés à proclamer notre foi dans l'égalité de droits des hommes et des femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'était l'une des les premières choses auxquelles pensaient les rédacteurs de la Charte des Nations Unies juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cela n'est-il pas frappant? Alors, bien sûr, nous avons beaucoup fait depuis. La conférence de Beijing de 1995 en particulier a été un tournant à cet égard. La commémoration de son 20e anniversaire est la meilleure occasion pour nous afin que nous puissions montrer que nous restons pleinement attachés à ces résultats. L'année prochaine, nous réfléchirons également à nos progrès concernant le programme sur les femmes, l'appel à la sécurité, 15 ans après sa création par la résolution du Conseil de sécurité 1325. Il est clair que nous devrons trouver de nouvelles stratégies pour protéger les femmes en temps de conflit, les protéger de la violence, en particulier des violences sexuelles. Et il est clair que nous sommes encore très loin d'utiliser le plein potentiel des femmes en tant qu'agentes de la paix. Les hommes ont toujours été chargés de faire la guerre et les hommes ont toujours été chargés de faire la paix. Leur bilan est loin d'être convaincant. Les femmes doivent obtenir un siège à la table de négociation, là où est leur juste place et là où on a besoin d'elles. Je suis reconnaissante au secrétaire général qui a pris un rôle de chef de file sur cette question et qui, de plus en plus, nomme des femmes à des positions importantes pour la médiation et la résolution des conflits. Nous sommes déterminés à créer les conditions qui permettront de préserver la justice et le respect des obligations émergeant des traités et d'autres sources du droit international. La justice et l'état de droit sont des domaines dans lesquels nous avons fait des progrès importants. Les tribunaux internationaux et d'autres mécanismes judiciaires sont de plus en plus acceptés. Les appels à la responsabilisation se font de plus en plus entendre. Et il y a un nombre important, un corps important de jurisprudence internationale. Cela est particulièrement vrai pour la Cour pénale internationale, la CPI. Les victimes des crimes les plus graves dans le monde entier placent leurs espoirs de justice dans le système du statut de Rome. Il s'agit d'une grande responsabilité pour la Cour, une institution qui souvent opère dans un contexte politique très tendu et chargé. Ceux qui appuient la Cour doivent bien marquer leur appui. C'est pourquoi j'ai lancé un réseau officieux de ministres qui appuient la CPI, qui le font personnellement en tant que responsable politique. Notre réseau comprend maintenant 26 membres. Nous sommes prêts à défendre la Cour et l'intégrité du statut de Rome. Nous le faisons parce que nous savons que les attaques politiques contre la CPI sont faciles à lancer, mais qu'il est difficile d'y répondre. Le fait que la Cour est une institution entièrement indépendante, qui suit le droit et non pas la politique, eh bien cela ne fait pas les gros titres. Et le fait que la CPI est compétente dans certains endroits, mais pas dans d'autres, eh bien il est facile de présenter cela à tort comme de la sélectivité. Donc, nous voulons que le statut de Rome devienne un traité universel. Nous lançons un appel dans ce sens. Les victimes de crimes en Syrie, en Irak, en Palestine et en Corée du Nord, pour ne citer que quelques exemples, ont le droit de se faire entendre devant un tribunal comme les victimes dans d'autres parties du monde. Nous sommes déterminés à promouvoir les progrès sociaux et de meilleures normes de vie et davantage de liberté. Il ne pourrait pas y avoir de défi plus important pour cette Assemblée que de fixer un programme mondial pour le développement durable pour la génération à venir. Il ne pourrait pas y avoir de chance plus importante permettant de montrer sa pertinence. Les objectifs du millénaire pour le développement ont été un succès. Ils ont fixé la voie à suivre pour plus d'une décennie et ils ont mobilisé des efforts gigantesques pour le développement et ont permis des progrès très importants. Mais c'était également un processus d'apprentissage. Nous devons voir honnêtement là où nous avons échoué et faire mieux là où nous le pouvons. Il y a trois domaines qui sont particulièrement importants à cet égard. Premièrement, des institutions responsables, l'accès à la justice et la lutte efficace contre la corruption, ce sont des ingrédients clés du développement, un développement qui soit véritablement transformateur et véritablement durable. Cela est amplement illustré par les expériences nationales dans le monde entier, et cela est bien établi par des études. Placer l'état de droit au cœur du programme des objectifs de développement durable, les ODD, cela sera une clé du succès. Deuxièmement, il n'y a pas de développement durable sans la pleine autonomisation des femmes. Seule la pleine égalité entre les hommes et les femmes sera, voilà ce qui sera nécessaire pour que le développement soit durable. Nous devons donc pleinement reconnaître que l'autonomisation des femmes est un ingrédient clé du développement durable. Troisièmement, la mise en œuvre des engagements internationaux ne peut être laissée au hasard. Il nous faut de la redevabilité. Nous devons créer un système permettant de suivre les progrès et la mise en œuvre du programme de l'après-2015 telle qu'appliquée par nous, les États, mais impliquant toutes les parties prenantes. Le forum politique de haut niveau est la meilleure base pour un tel système. Nos travaux jusqu'ici visant à développer le programme de développement d'après 2015 nous donnent raison d'être optimistes. Nous donnent des raisons d'être optimistes. Utilisons au mieux les mois à venir pour produire un programme dont nous pourrons être véritablement fiers. Une plateforme d'action collective et une source d'inspiration pour les générations à venir.
Je remercie la ministre des Affaires étrangères, la ministre de l'Éducation et la ministre des Affaires culturelles du Liechtenstein pour sa déclaration.